procéder d'une manière extrêmement prudente et pratiquement intimiste, mais je n'expose pas.
Sculpter l'écoute. Je propose simplement une expérience d'écoute basée sur l'environnement, sur ce qu'il y a, sur ce qui est besoin, et pas du tout sur quelque chose que je produis ou que je choisis. Je ne suis pas du tout maître de la situation dans laquelle sont exposés les objets en général et dans les situations dans lesquelles ils sont utilisés. Et du coup, vous voyez tout à l'heure l'écran et puis aller les expérimenter un petit peu dans l'écoute. En fait, c'est simplement des. Je parlais ce matin de la question, en fait, la question du contexte. Et, en fait, le propre de la salle de concert, c'est d'offrir un contexte propice à l'écoute. Donc on est déjà, à partir du moment où un public rentre dans une salle de concert, qu'on baisse la lumière sur le public, qu'on augmente la lumière sur scène, on produit un contexte propice à une forme d'attention. Et avant même que une quelconque musique ait commencé, il y a déjà une mise en situation de gens qui se retrouvent publics et de gens qui se retrouvent musiciens, interprètes, on peut les nommer comme on veut, mais il y a ceux qui produisent et ceux qui reçoivent. Et ça, ça appartient à certains. C'est régi par des codes qui remontent à il y a bien longtemps. Et moi, la plupart de. En général, mon travail, moi je ne suis pas musicien, je suis pas, en tout cas pas au sens commun. Je suis encore moins compositeur. Et mon espace de travail, c'est bien davantage l'espace d'exposition que l'espace du concert ou de la salle de musique. Et ce qui m'intéresse dans l'espace d'exposition, qui est évidemment un espace dédié d'abord aux arts visuels, historiquement, c'est un contexte d'attention. Pour le regard et pas un contexte d'attention pour l'oreille, a priori en tout cas, même si les choses changent depuis le milieu du XXe siècle. La temporalité du coup n'est pas la même. La temporalité de la salle d'exposition n'est pas du tout la temporalité de la salle de concert. Et finalement il y a une temporalité qui n'est plus basée sur la durée, mais qui est basée, on pourrait dire, d'une certaine manière sur le libre arbitre du spectateur. C'est-à-dire que dans une exposition, vous décidez le temps que vous passez devant chaque tableau. Alors que dans une salle de concert ou dans une salle de cinéma, il y a une durée définie et qui n'est pas de votre choix, qui est définie avant par ici, avant que vous veniez l'écouter ou le regarder dans le cadre d'un film. Donc, du coup, effectivement, je crois que à partir du moment où on a intégré. On n'était plus dans ce dont tu parlais tout à l'heure, sur les correspondances entre l'art plastique, la musique, etc. Mais à partir du moment où on a commencé à inventer des termes qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais qui ont permis à un moment donné d'essayer de d'éclaircir un peu les situations, quand on a inventé des termes comme Klangkunst ou Sound Art ou Art Sonore, c'était l'idée de dire que ce n'est pas exactement de la musique, ce n'est pas non plus exactement des arts visuels. C'est un truc entre les deux. Mais c'est pas non plus un truc qui essaye de se faire rencontrer deux mondes. C'est une entité autonome où on part de l'écoute et de l'expérience et puis on travaille à partir de ça. On n'essaie pas forcément de le faire rentrer dans telle ou telle catégorie. Et comme bien souvent, quand on essaie de ne pas catégoriser, on se retrouve à fabriquer des nouvelles catégories, donc on recatégorise. Voilà, c'est un peu ce qui s'était passé. Enfin, en parlant de ça, ça me fait penser un peu à Pierre Schaeffer qui, quand il a commencé son travail sur. Le guide de l'objet musical commence en expliquant qu'en fait il veut faire quelque chose pour arrêter de trop définir la musique et puis en fait il invente des systèmes qui catégorisent encore plus. On se trouve un espèce de casse-tête où il veut tout référencer, tout répertorier, classer les sons par timbre, par durée, enfin tout un tas de trucs qui deviennent encore plus compliqués que tout ce qui avait existé avant lui et du coup encore plus précis dans les catégorisations. Du coup, voilà, mon espace de jeu, c'est davantage l'espace d'exposition. Mais ça m'intéresse d'interroger l'écoute et d'interroger ses limites. Donc, en termes de durée, ça, bon, je l'ai dit, c'est plutôt, du coup, plutôt le spectateur ou le public qui, ou le visiteur qui choisit le temps qu'il accorde à l'écoute. J'essaie en général de ne pas lui imposer, une durée d'œuvre. Les œuvres existent et puis que le spectateur soit là ou pas, elles tournent. Et puis après, elles existent dans le partage selon le temps que le visiteur a envie d'y accorder. Et ça, c'est voilà, quelque chose que permet l'espace d'exposition, il me semble. Et puis, pour parler de quelque chose que vous ne verrez pas du tout ici, que vous n'entendrez pas du tout ici, il y a aussi souvent les espaces d'exposition sont qualifiés par des ingénieurs acoustiques d'espaces ayant des mauvaises acoustiques par rapport à des salles de concert. Sauf que bon, ces termes-là, bon, mauvais, c'est très, très relatif et très subjectif. Et donc souvent, j'ai pas mal de dispositifs sonores où je joue avec ce qu'on va appeler des défauts d'acoustique des lieux et qui sont pour moi en fait ben, surtout des richesses puisque c'est ça qui me permet de travailler. Donc je joue, j'ai des dispositifs où je fais des diffusions de basse fréquence par exemple, et puis sur le principe de résonance sympathique, je vais faire entrer en vibration des éléments de l'architecture. Donc j'ai simplement un émetteur de très basse fréquence, et je travaille en général la nuit pour être tranquille et en silence, et puis j'accorde le dispositif, je trouve les fréquences très très graves, qui vont, et puis à quelle amplitude je dois les diffuser pour que ça fasse vibrer un néon, je ne sais pas, un bout de radiateur, un tuyau, une poignée de porte voilà, dans l'espace, et donc de placer des sons comme ça dans l'espace qui se révèlent et du coup qui deviennent, enfin en gros c'est révéler des sonorités potentielles qui existaient déjà dans le lieu avant que j'arrive, mais simplement par un dispositif de diffusion acoustique de les réveiller. Et ça m'intéresse aussi sur ce genre de pièces-là, de jouer sur vraiment sur la limite, c'est-à-dire que pour le spectateur ou le visiteur, j'aime pas trop le terme de spectateur, parce que j'essaie de pas être trop dans le spectacle, pour le visiteur, ça propose des expériences où il y a un moment où ce visiteur n'est pas sûr que ça soit volontaire ou pas. Et j'aime bien ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va entendre un truc sonner, et puis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe là-haut? Et puis, il n'est pas sûr que quelqu'un est à l'origine de cette vibration-là, et du coup, j'aime bien quand le visiteur peut s'accaparer les choses parce qu'il a l'impression de les avoir découvertes par lui-même. Voilà, c'est pas toujours prendre quelqu'un par la main pour lui dire, tiens, regarde là, écoute, ça dure tant de temps, tu vas voir, c'est fantastique. Et du coup, ça veut dire aussi que j'en laisse au passage souvent, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs dans lesquels les gens passent à côté ou passent à travers, ils ne se rendent absolument pas compte qu'il y a quelque chose. Même si pour certains ça demande beaucoup de travail, c'est comme ça, et puis je pense que Jacques est aussi dans cette réalité là, c'est que parfois il passe énormément de temps à réaliser, enfin tout le temps en fait, il passe souvent beaucoup de temps à réaliser ses dessins, et puis je pense qu'il y a des gens qui passent devant qui les voient en une seconde, ou qui les voient pas d'ailleurs, qui pensent que c'est juste des pages blanches et qu'il n'y a rien dessus. Mais je crois que c'est, voilà, c'est le jeu, c'est ce qui se passe à partir du moment où on a une forme d'exigence dans la finesse aussi des choses qui sont réalisées. Mais ici, les deux pièces que je présente, donc le schizophone et Tasset, donc l'installation vidéo qui est au fond là-bas, sont deux pièces a priori muettes, même si les deux parlent d'écoute. Les deux parlent d'écoute, de perception et de rapport au corps, de rapport à l'espace plastique, de rapport à la sculpture, et en même temps, donc de son, évidemment, et en même temps, les deux sont des pièces qui ne produisent pas, à proprement parler, du son, qui ne sont pas des pièces à écouter. Mais si on a une pièce pour écouter, donc des sculptures prothèses, voilà, donc ça s'appelle les schizophones, en fait, c'est l'idée que ça scinde, donc il y a une schizophonie, donc une scission de l'écoute entre la gauche et la droite. Donc c'est simplement deux cônes acoustiques ouverts sur les côtés, et donc qui amplifient les sons qui arrivent latéralement. Donc en fait, ça modifie notre perception naturelle de l'espace sonore. Donc on se retrouve à entendre des sons beaucoup plus forts qu'on entendrait. Enfin, ça amplifie les sons qu'on perçoit, et en même temps, ça, en coupant la gauche et la droite, ça fait qu'on a beaucoup de mal à les localiser. C'est-à-dire qu'on les entend venir soit de là, mais du coup, on ne sait pas où ils sont autour de nous. Et quelqu'un me refaisait la réflexion ce matin de je ne comprends pas, j'entends, on est dans le conservatoire ici, il y a des musiciens dans les étages, et, ou des apprentis musiciens, et du coup, quelqu'un entendait un son de batterie, il me disait, mais je ne comprends pas, ça vient du mur, ça vient du milieu du mur. Et c'est parce qu'en fait, il n'entendait pas la source qui était derrière une fenêtre ici en face de lui, mais il entendait la réflexion du son sur le mur, donc comme dans une partie de billard. Ça tapait en une bande, et puis ça lui revenait directement dans l'oreille. Et du coup, voilà, le fait de trucher, de sculpter cette perception naturelle de l'environnement, propose une expérience d'écoute relativement simple, mais relativement ludique, et j'espère un petit peu pédagogique aussi sur la manière dont fonctionne notre oreille. Et je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'était. C'est pas très grave. Sur la notion de son et d'espace, en fait, aussi quelque chose qui... quelque chose d'assez fondamental qui existe peu, quoique le concert qu'on a vu hier soir, il y avait ces tentatives de mise en place, de mise en espace du son. Mais sauf qu'on était quand même dans cette confrontation quand même des performeurs, enfin des musiciens, des chanteurs, et puis du public en face. Alors même si on les avait éclatés dans l'espace pour créer comme ça une espèce de... Ils n'étaient toujours pas autour de nous, sauf les moments où il y a eu les tambours, mais ils étaient quand même devant nous, même si l'installation scénique était un peu plus éclatée. Donc pour Humus, hein, notamment, pour la pièce Humus, donc avec ce soliste au milieu et puis toutes les voix autour, les six voix autour, 6 ou 7, je ne sais plus. Donc il y avait une tentative comme ça de mise en espace, mais comme on, de toute façon on restait devant, on était quand même dans une confrontation scénique au dispositif musical. Ce que permet la salle d'exposition, c'est d'exploiter autrement l'espace aussi, et d'exploiter le son dans l'espace d'une autre manière. Et en fait, très souvent, la musique exploite la notion d'espace à l'intérieur même de la musique. C'est-à-dire que tel son, telle réverbération, telle descente, tel glissando va produire une durée, va produire une temporalité et va produire un espace à l'intérieur de la musique. Ou des clusters par exemple vont produire des formes de densité et du coup des espaces compactés. Donc on est finalement dans des représentations, on utilise les sons pour représenter des espaces. Dans l'espace d'exposition, on va pouvoir utiliser le son dans l'espace pour de vrai. C'est-à-dire on va pouvoir jouer avec les relations spatiales du son, donc les réalités acoustiques, les réalités de déplacement du son dans l'espace. Le fait que si je fais ça, ça part là-bas et ça revient. Le son est quelque chose de dynamique qui se déplace vraiment. Et ce qui, à mon sens en tout cas, et bon, je ne suis pas très avis sur la question de la musique, mais ce qui à mon sens c'est quelque chose qui a été absorbé dans la musique et qui n'est pas forcément rejoué dans l'expérience qui est proposée, peut-être plus maintenant, mais la salle de concert a tué ça, c'est qu'on a essayé de faire des salles, des cocons, où on entendait au mieux l'expérience, on entendait au mieux l'œuvre musicale en soi. Mais on se posait plus, et on faisait en sorte, et puis le théâtre, enfin, les architectures wagnériennes aussi, des salles de concert, et notamment Bayreuth, ont été développées pour que tout le monde entende le plus fort possible. Mais du coup, on n'avait plus ce jeu. Il fallait uniformiser la perception de l'œuvre pour le public. Et de même que la télé permet que tout le monde voit bien l'image, puisque chacun a sa télé à la maison. Or, dans l'espace d'exposition, on peut jouer autrement les choses. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur les singularités des placements des gens dans l'espace. Et se dire, ils n'auront pas tous la même expérience de la diffusion, parce qu'ils ne seront pas tous au même endroit, tout simplement, et chacun aura son expérience singulière. Et c'est aussi ce que j'essaie de jouer ici avec ces casques. C'est-à-dire que, finalement, je crois que l'expérience d'écoute est une expérience, physiologique évidemment, mais une expérience profondément intime et subjective. Et par conséquent, c'est Peter Zandi qui en parle assez bien de l'écoute, et de lui, ce qu'il appelle l'écoute plastique, c'est le fait que quand on réécrit des pièces musicales, on essaie de partager son écoute de la pièce musicale. Et que les interprètes aussi de telle ou telle musique essaient de faire par l'interprétation de la musique, essaient de faire partager l'écoute qu'ils ont de cette œuvre musicale. Alors c'est très beau dans l'idée, je pense que malheureusement l'expérience musicale se vit et se partage peu, parce qu'elle reste très personnelle, très intime. Et du coup, avec ces schizophones, on peut aller à plusieurs et se balader à plusieurs, chacun avec son casque sur les oreilles. Il se trouve qu'on ne sera jamais dans une posture qui nous permettra d'entendre ce que l'autre entend et l'entendre de la même manière. Il y a, en parlant de ça, je pense à un artiste que j'aime beaucoup et compositeur qui est Lamonté Young. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour certains d'entre vous. Qu'on fait rentrer dans les compositeurs minimalistes américains. Lamonté Young a produit des années 60, ce qu'il appelle les Dream Houses. Au départ, c'était The Theater of Eternal Music. Donc, c'était le théâtre de la musique continue, la musique infinie. C'était des salles dans lesquelles on venait et il y avait des musiciens qui se réveillaient jour et nuit pour qu'il y ait tout le temps de la musique dans la salle. C'était principalement des musiques issues de la culture indienne, des ragas ou des drupas. Et puis au fur et à mesure, devant l'ampleur quand même du projet, il se rend compte que c'était vachement pratique de mettre des haut-parleurs et un synthétiseur. Parce que comme ça, il suffisait d'avoir de l'électricité et puis ça sonnait tout le temps. Et puis on était obligé d'avoir des musiciens qui se relaient jour et demi toute l'année. Et donc il a commencé à composer des pièces sonores pour des synthétiseurs, enfin même à construire des synthétiseurs, qui produisent des drones, donc ce qu'on appelle les bourdons en français, des sons continus. À cela près que quand on dit bourdon en musique en français, on pense souvent à des sons graves et que les drones de Lamonté Young en fait utilisent tout le spectre, depuis les basses jusqu'aux aigus. Et ils utilisent tout le spectre avec des systèmes d'accordage en fait, des fréquences pures un petit peu spécifiques qui produisent énormément de battements. Donc ils jouent uniquement sur les dissonances. Donc ils essaient de produire les dissonances les plus riches possibles pour créer des battements acoustiques. Et en fait, ce qui se passe quand on rentre dans une dream house, c'est que on peut très bien se poser par terre, fermer les yeux et écouter le son, et écouter ces battements qui évoluent très lentement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est se déplacer dans le lieu, et en fait, on se rend compte qu'il suffit de bouger un tout petit peu la tête comme ça, pour modifier la vitesse des battements. C'est-à-dire que selon la position qu'on adopte, selon la position de nos deux oreilles dans l'espace, il suffit de la bouger de 2 cm. Selon la position de nos deux oreilles dans l'espace, on va modifier notre perception des battements acoustiques. Puisque ces sons, qu'on va appeler sons purs, des sons, c'est des signaux sinusoïdaux, des ondes pures, à des fréquences données. Ces signaux sinusoïdaux sont produits en général par 4 haut-parleurs, mais évidemment, ils tapent aussi dans les murs. Donc tout ça se recoupe. Et ça crée une espèce de bain de fréquences dans lequel on va pouvoir s'immerger. Et selon l'endroit où on est, on va saisir tel ou tel courant. On vient d'utiliser le terme de courant, parce que ça fait l'aspect de fluide, donc l'aspect énergétique de ces sons dans l'espace. Et du coup, on peut vraiment se trouver dans des postures où on va composer soi-même son écoute par le mouvement de son corps dans l'espace. Donc une espèce de forme musicale presque, je ne sais pas, un peu totale, pas au sens total de Wagner, mais au sens de totalité, du fait que ça englobe tout l'espace, tout le corps, et qu'on peut s'immerger à l'intérieur. Donc ça, moi, c'est des artistes qui m'intéressent beaucoup, qui restent des sources d'inspiration. Parmi les autres compositeurs, moi, qui m'intéressent beaucoup, je peux citer notamment Alvin Lucier, un compositeur américain aussi, rattaché aussi au minimaliste. Enfin, moi, si je dis des bêtises...
Oui, c'est pas
exactement.
Pas exactement, mais c'est pas grave.
Qui, lui, m'intéresse pas forcément par rapport aux formes sonores qu'il propose, quoi qu'il y en a de très belles, mais aussi par rapport à ses protocoles de travail. C'est-à-dire qu'il a vraiment envisagé des logiques de construction et des processus de travail que je trouve vraiment très pertinents, et souvent par rapport à l'espace. Et pour revenir un petit peu à nos moutons aussi dans le lieu et dans la salle d'exposition, donc le deuxième dispositif que je présente là-bas, c'est une installation vidéo qui s'appelle Tasset. Le terme d'installation vidéo, parce que je considère pas seulement, il ne s'agit pas seulement d'un film, il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, mais bien d'un dispositif complet, donc qui englobe donc le lieu où on regarde, et puis vous verrez donc après, il y a une vidéo et deux bancs noirs, deux monolithes, donc qui renvoient directement à la sculpture minimale américaine. Et en fait, je suis parti d'un instrument paradoxal, qui est un grand diapason. C'est un instrument qui a été inventé en 1889, réalisé en 1889 par Rudolf Koenig, et qui est un, Donc c'est un diapason qui fait à peu près 1,20 m de haut, qui se tient verticalement, qui est sur un trépied en fonte, qui est très lourd, c'est difficile à déplacer. Et en fait, ce diapason a été réalisé pour évaluer le seuil de l'audibilité, le seuil d'audition de l'oreille humaine dans les sons graves. Donc à partir de quand, jusqu'où l'oreille peut entendre des sons graves. Je descends. Puis à un moment, est-ce que c'est encore du son et quand est-ce que ça devient des vibrations qu'on peut ressentir physiquement mais qu'on ne peut plus entendre. Donc c'est la limite, hein, ce qu'on appelle la limite entre les sons et les infrasons, ou les basses et les infrabasses. Vous savez, hein, en dessous, en général on dit en dessous de 20 000 Hz c'est les infrasons, au-dessus de 20 000 Hz c'est les ultrasons. En dessous c'est les baleines et les éléphants et au-dessus c'est les chauves-souris. Et donc en fait cet instrument m'intéressait parce que finalement il y avait un objet un peu paradoxal qui est un instrument lié à l'écoute, un instrument qui parle de musique, qui parle, enfin diapason, quoi, l'objet qui sert normalement à accorder les instruments, et qui est là un objet acoustique, un objet sonore mais muet, puisqu'en fait il vibre dans des sons trop graves. Alors on peut le régler et le rendre un petit peu audible selon les fréquences qu'on utilise, mais il ne monte pas très haut, je crois qu'il monte à 25 Hz maximum. Et du coup, c'est effectivement, c'est-à-dire que si on approche l'oreille du diapason vibrant, effectivement, on a une petite sensation, comme dirait Helmholtz, hein, la sensation of tone, hein, une sensation de tonalité, une sensation de son, mais on ne sait plus trop si c'est le son vraiment qu'on entend ou si c'est le courant d'air. Produit par, par la vibration du diapason devant le tympan. Donc il y a cette espèce de limite là qui m'intéresse beaucoup. Et je ne sais plus qui disait écouter, c'est toucher à distance. Écouter, c'est toucher à distance. Et je trouve ça assez beau. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer que le sens du toucher et le sens de l'écoute, c'est la même chose. Seulement, le tympan, il touche l'air, et donc il est tellement fragile, qu'il est tellement sensible, qu'il touche l'air qui vibre, qu'il entend. Alors que la peau n'est pas assez fine, pas assez fragile, pas assez sensible pour toucher l'air vibrant. Mais par contre, quand vous touchez quelque chose, si vous voulez savoir, la température c'est une chose, mais si vous voulez connaître la surface d'un objet, si vous posez les doigts, ça suffit pas. Il faut bouger. Parce que quand vous bougez, vous produisez une vibration à la surface de la peau. Et c'est cette vibration-là qui est interprétée après par le cerveau, qui vous dit quelle est la nature de la surface que vous touchez. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute vraiment aussi dans le toucher. C'est à peu près la même chose. Et donc ce dispositif là-bas, je suis parti de cet objet sonore muet et j'ai décidé d'en faire un film, donc de filmer l'objet vibrant. Et j'ai exploité un artefact vidéo qui s'appelle l'effet stroboscopique. C'est un truc que vous avez tous vu au cinéma ou à la télé, c'est quand vous avez les roues de voiture qui tournent à l'envers. Ou les pales d'hélicoptère ou le ventilo qui a l'air de faire des mouvements bizarres ou de se mettre à changer de sens au milieu de son mouvement. Ça vient en fait d'une interférence entre le nombre d'images par seconde qui capture le mouvement et le cycle de ce mouvement, donc la fréquence de ce mouvement. Et du coup j'ai exploité ça au maximum, donc en utilisant une vitesse d'obturation très rapide sur la caméra. Et j'ai filmé, j'ai réglé le diapason à 23 Hz, donc 23 oscillations par seconde, ce qui est donc un son quasiment inaudible. Et je l'ai filmé à une vitesse standard de 25 images par seconde, ce qui est un standard en vidéo. Et du coup, vu que je capture 25 fois par seconde une image d'un objet qui lui bouge 23 fois dans le même temps, ben on a l'impression qu'il ne bouge que 2 fois par seconde. Donc la vidéo en fait n'est pas un ralenti. Et vous le verrez à l'écran puisqu'on voit de la poussière qui vole, et qui vole de manière fluide, à une vitesse qui semble réaliste. Et par contre, le mouvement du diapason, lui, semble complètement bizarre. Il semble ralenti, il semble mou. Et en fait, c'est un artefact vidéo, c'est pas un trucage. Enfin, c'est un trucage, mais de tournage, c'est pas un trucage ensuite en post-production. Et la vibration de ce diapason et cette interférence optique donc, qui naît dans l'artefact vidéo, sont en fait diffusés sous forme vibratoire dans les bancs. Donc les deux monolithes sur lesquels on s'assoit diffusent la vibration, donc la vibration de 23 Hz du diapason et la vibration de 25 Hz relative au nombre d'images par seconde, et donc reproduisent ce qu'on appelle un battement acoustique, hein, si vous connaissez. Dans les très basses fréquences on appelle ça un battement acoustique, dans les hautes fréquences on appelle ça une dissonance ou un effet, un tartini, hein, Tartini, du nom du compositeur. Et en fait, donc, vous ressentez physiquement une synchronisation de ces vibrations quasiment inaudibles, mais qu'on sent de manière haptique, de manière tactile, physique. Ces vibrations-là sont synchronisées, ces interférences sont synchronisées avec les interférences optiques qu'on a à l'image. Donc c'est un dispositif qui parle un peu de sculpture minimale, un peu de cinéma et de cinéma muet, mais aussi de la question de la synchronisation du son minimal au cinéma. Donc il parle aussi du cinéma parlant, de l'apparition du cinéma parlant, et qui parle bah, évidemment un peu de son et de dispositif sonore et de musique. Voilà. Le dispositif, en fait, c'est il y a deux bancs, et je pense qu'on peut s'asseoir à quatre par banc, mais pas vraiment plus. Du coup, c'est plutôt par tranche de 8. Voilà, que ça se regarde. Et c'est en contradiction à peu près totale avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de la temporalité. Mon début non pas, puisque là, comme il s'agit d'une vidéo, bon, elle tourne en boucle, mais elle a quand même, elle a été conçue quand même avec un peu un début, une suite et une fin, mais sauf qu'on peut la prendre à n'importe quel moment et puis regarder la boucle. Et puis, si on est fan, on peut rester plus longtemps aussi, regarder plusieurs boucles. Je sais pas si vous avez des questions avant, enfin, c'est peut-être difficile avant de regarder, mais déjà sur le ouais, je sais pas sur le sujet.
Le schizophone n'a pas un effet de filtrage de fréquence
si,
aussi
si.
Et donc il doit renforcer des médiums.
Alors il renforce les médiums et les aigus. Enfin, en fait, il coupe les basses. Quoi. C'est-à-dire qu'il ouais, il beaucoup les basses. Mais c'est ça, oui, il renforce les médiums et les fréquences.
Pourquoi ça coupe la basse?
Et pourquoi pas parce que déjà, quand on écoute selon la taille du trou, en fait, tu as des longueurs d'onde qui ne vont pas passer par le trou. Donc ça, c'est un premier système de filtrage, c'est le principe d'un résonateur, en fait, de filtrage, déjà. Et puis, les dimensions du pavillon, aussi. Mais c'est principalement la question du diamètre du trou, finalement, en sortie du cône, qui va définir les fréquences qui sont filtrées. Donc, il y a peu de basses fréquences là-dessus. C'est comme, je sais pas, tu regardes une membrane de haut-parleur, pour faire des basses, il faut utiliser une membrane, mais c'est pas un super exemple, ça donne une idée de quoi tu penses. Et puis il y a une contrebasse ou un violon.
Et ça, c'est un dispositif ou pas?
Alors ça, c'est la faute à Jacques. Hein, Jacques? Non, ça, c'est Jacques qui a fait une playlist en fait, de pièces musicales qui sont diffusées dans l'exposition. Et donc, c'est un dispositif, mais c'est un dispositif électroacoustique stéréo standard pour écouter des pièces musicales qui sont diffusées comme, je sais pas, je veux pas péjoratif, mais comme musique d'ambiance. Un gros mot, comme musique d'ameublement.
Comment peut-on s'organiser là si vous avez d'autres questions?
Est-ce que ça
vous
est
Est-ce qu'on peut se partager peut-être en deux jours?
Bah oui, c'est ça, exactement.
Il y a
quand même des
il y en a 5.